Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Comment améliorer la fourniture en énergie électrique en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec le professeur Serge Pangou, hydrologue et géographe. Professeur Serge Pangou, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service qui s'intéresse à l'énergie électrique. Vous avez des questions, des préoccupations, appelez au 081-890-63-94 pour participer à cette émission. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous pouvez également poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga, la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission que coordonne Marcel Ngomombalakeba. Au micro, c'est Jody Daniel Nkeshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15. Jusqu'à 20h, en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30, heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
En République démocratique du Congo, l'accès à l'énergie électrique pose problème. Il y a beaucoup de difficultés qui se posent dans ces secteurs, dans plusieurs villes du pays. Et au fil des années, la Société nationale d'électricité, la SNEL, est confrontée à d'énormes difficultés. Conséquence, le délestage est devenu fréquent, sans compter les coupures intempestives d'électricité. En milieu rural, la situation est encore beaucoup plus préoccupante. La majorité de la population vit dans le noir depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la fourniture en énergie électrique en République démocratique du Congo? Nous allons aborder cette question avec notre invité, professeur Serge Pangou, hydrologue et géographe. Professeur Serge Pangou, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour.
D'après vous, quelles sont les raisons qui sont à la base de toutes ces difficultés d'accès à l'électricité dans notre pays?
Bien, merci Jordi. D'abord, il faut aller à l'origine des mots pour les comprendre. Disons que depuis la nuit des temps, l'électricité est cette denrée qui a boosté l'industrie de par le monde. Et ici chez nous, très tôt déjà, la colonisation avec comme électrique et tout ça, avait mené déjà des études pour essayer de développer ce secteur-là. Mais malheureusement, au fil des années, les projets se sont accumulés, mais les réalisations n'ont pas suffi. De plus, si nous devons parler d'abord de ce que nous avons, c'est-à-dire de l'hydroélectricité aujourd'hui, c'est que le réseau déjà de production est déficitaire. Et là où le bât blesse encore, c'est que le peu d'énergie qu'on produit n'est pas distribué suffisamment. Je vous cite quelques exemples. Vous avez déjà des barrages terminés, ça et là, comme Kakobola dans le Kwilu, nous avons ici Zongo 2, et tout ça. Mais regardez, est-ce que les lignes sont implantées? Non. Et donc, c'est des investissements inachevés, souvent. Et Inga, quand vous allez voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste encore? Parce que plusieurs paramètres font que la production d'énergie aujourd'hui au Congo est passée, je sais pas moi, du simple au dérisoire. Simplement parce que les outils de production ne sont pas entretenus et les investissements sont gaspillés, ça il faut le dire, sont gaspillés. Et puis nous avons choisi des solutions parfois qui ne cadrent pas avec notre force économique.
Professeur, aujourd'hui, nous avons le barrage d'Inga qui a certainement des problèmes, mais il y a le projet d'Inga 2, Inga 3.
Oui.
Et d'après ce qu'on entend, la RDC sera en mesure de fournir de l'électricité même à tout le continent africain.
Oui, oui, mais les potentiels existent. Il suffit de lire ma thèse pour cela. Et je vous dis que la RDC, si elle a un pouvoir qui peut faire d'elle une véritable nation pilote d'Afrique, il y a d'abord cette force hydraulique qui est là. Il suffit d'aller à Inga, vous allez voir, les sites comme ça au monde, je ne sais pas s'il y en a deux ou trois, il n'y en a pas. Mais je vous dis que l'énergie qui se dissipe à Inga là pouvait être transformée en argent depuis longtemps. Mais je vous dis que les investissements, souvent, sont gaspillés. C'est-à-dire, on dirait que nous marchons à volo. C'est-à-dire, comme si on n'avait pas de plan national pour notre propre développement. On fait du tâtonnage, du saupoudrage. Et donc, on prend... on veut construire un barrage là parce que il faut qu'il y ait élection l'année prochaine et que je trouve des voies. Et on veut construire... Mais regardez, monsieur Jordi, est-ce que la RDC, si vous prenez déjà le soleil, nous l'avons toute la journée, toute l'année, le soleil seulement. Et vous voyez que aujourd'hui, si vous allez dans la plupart des villages au Congo, les gens se servent des panneaux de fortune pour essayer d'avoir un peu d'électricité, ne serait-ce que pour suivre la télévision. Mais est-ce que c'est avec cette énergie-là qu'on va se développer? On a des mines, des industries lourdes qui demandent beaucoup d'énergie. Mais est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire tourner ces mines?
Alors, professeur, et le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a... C'est parce qu'on manque une politique claire?
Oui, le problème, c'est que les investissements sont insignifiants dans ce secteur-là. Insignifiants. Il n'y a pas d'autre problème. Le problème, c'est que les investissements sont insignifiants et les ressources, nous les avons. Je vous ai cité le soleil, l'eau. Je vous ai cité... Nous avons même le volcanisme. C'est-à-dire que nous avons même l'énergie thermique que nous pouvons exploiter. Il y a de l'eau chaude dans les geysers du Nord Kivu là-bas. Il y a de l'eau chaude. Et avec cette vapeur-là, on peut fabriquer autant de centrales. Il y a du gaz qu'on brûle à Moanda, vous le savez, non, monsieur Jordi? Le gaz, ça se brûle. Perenco brûle le gaz. On pouvait fabriquer de l'énergie avec ça. Nous avons la biomasse. Tout ce que nous avons comme fonds sceptiques, déchets de cuisine et tout ça.
Donc, c'est de l'énergie. Professeur, d'après vous, il y a peu d'investissements dans ces secteurs?
Il n'y a pas peu, mais il n'y a rien comme investissement. C'est insignifiant pour un pays comme le nôtre. C'est tout ce qui manque.
Voilà. On va accueillir deux auditeurs. Kazero nous appelle de Zongo et Éminence Mwamba de Kasumba Lessa. Kazero, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Papi.
Quelle est votre préoccupation?
Ok, merci. C'est Kazero Tuki de la ville de Zongo. Je pense que... Les problèmes de l'électricité dans la République démocratique du Congo, ça pose vraiment un sérieux problème. Dans le sens que beaucoup de villes de notre pays demeurent dans l'obscurité en ce qui concerne l'énergie électrique.
Prenons par exemple le cas de Kazero, Azongo, vous êtes desservi par le barrage de Mobayimbongo, je suppose.
Mais je dis, bien sûr, mais je dis, mais nous demeurons dans l'obscurité. Peut-être qu'il y a un travail là qui se fait dans le sens qu'on trouve un moyen pour faire traverser le courant de la République démocratique de la République centrafricaine, j'allais dire. Mais jusqu'à là, le travail là est en cours. Mais nous demeurons dans l'obscurité, c'est-à-dire nous utilisons maintenant le net privé, c'est-à-dire les groupes particuliers, c'est ceux qui maintenant les populations de cette ville, les populations de la ville de Zongo. Alors vraiment, monsieur, j'ai dit, ça pose un sérieux problème, le problème de l'électricité en RDC. Ça pose un sérieux problème. Ça dit, ce que le gouvernement peut faire, c'est quoi? Le gouvernement, nous avons des barrages, nous avons des grands barrages ici en RDC. Alors le gouvernement peut disposer. Et nous avons des ingénieurs, nous avons des électriciens en RDC. On peut choisir les ingénieurs là pour vérifier un peu le barrage et puis chercher à renforcer le niveau où sont la obtention de ces barrages afin de distribuer le courant électrique au niveau de la RDC, surtout sur tout le territoire national de la République démocratique du Congo. Alors, monsieur, je dis vraiment, c'est un sujet vraiment très intéressant qu'on peut débattre sur ça. Nous avons de sérieux problèmes. Ma ville propre, Zongo, c'est la force de la République centrafricaine. Vous allez voir que nous demeurons dans la sécurité de l'énergie électrique, monsieur Jedi.
Merci, Kazero, depuis Zongo. Éminence Mwamba, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de la radio européenne.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'énergie électrique?
Oui, monsieur le journaliste, en ce qui concerne l'énergie électrique, en RDC, c'est à mon humble avis. Il fallait que le gouvernement puisse d'abord faire des entretiens au barrage que nous avons. Par exemple, ici au Katanga, nous avons Mwadingusha, il y a ces deux barrages comme ça, et les barrages, qu'on puisse d'abord faire des entretiens. Après les entretiens, le courant sera maintenant stable. Vous voyez? Et de deux, ce qui abîme tout, c'est quoi? C'est l'impayement au niveau du personnel. Vous voyez? Lorsque quelqu'un a faim, il n'y a pas moyen qu'il puisse travailler en bonne et due forme. Il y a, par exemple, à l'Ikasi, on avait arrêté les agents de la ville qui coupaient les fils électriques pour aller vendre parce qu'ils n'étaient pas payés. Vous voyez? Et ça aussi, ça contribue au sous-développement ou bien au manque de paiement dans le système personnel. Ce que nous demandons au gouvernement, qu'il puisse expliquer aussi dans cette situation-là, que les gens soient bien payés pour qu'ils puissent maintenant améliorer le courant.
Ouais. Merci, Éminence Mwamba de Kasumbalesa. Christian, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Saudi, et bonjour aux auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'électricité dans notre pays?
Saudi, moi, je dirais que d'abord, il faudrait commencer par avoir un service de maintenance aguerri, pouvoir maintenir à l'état ce que nous avons comme matériel. Parce que si nous essayons en tout cupé d'éviter cet aspect des choses, nous tomberons dans ce que nous déplorons aujourd'hui. Pour créer, il faut d'abord commencer par remettre en état ce qui existe, notamment les appareils liés à la distribution, mais aussi à la production du courant électrique, comme les turbines et les transformateurs. Vous êtes sans savoir qu'ici, il y a certains quartiers où, quand vous allez, non, voilà, Bissosa Molili, pendant des mois, transformateur Zika. Ah, Bissosa Molili, il y a de cela 3 mois, transformateur Zika. Or, si vous abandonnez cet aspect des choses, vous partez, vous créez encore d'autres nouvelles sites pour que ces sites-là puissent bénéficier du courant, en laissant ce qui est déjà abîmé, les nouveaux sites seront également abîmés quelques temps après. Donc il faut d'abord chercher à améliorer ce qui existe. Et aujourd'hui, avec ce que nous appelons les courants prépayés, notamment ici à Kinshasa, c'est une bonne chose. Mais sauf que les ingénieurs, en créant ces systèmes, ils ont peut-être eu à confier à tel transformateur au moins 5-6 avenues ou 6 quartiers. Mais qu'est-ce que les directeurs ou les gens qui gèrent là-bas font, au lieu de se limiter avec 5-6 quartiers, ils continuent à distribuer. Et du coup, aujourd'hui, il y a cette distribution a atteint un niveau très supérieur. Donc, c'est-à-dire, il y a une population plus nombreuse que celle du départ qui bénéficie de ça. Alors, nous, aujourd'hui, la crainte, c'est que nous pouvons retomber dans ce que nous sommes en train de déplorer. Les transformateurs seront encore abîmés. Il faut, c'est vrai, continuer à améliorer la desserte en électricité, mais calculer tout ce qui est, tout ce qui est derrière ces distributions, afin qu'il n'y ait pas de surcharges.
Merci, Christian.
Parce que l'électricité, lorsqu'il y a surcharge, il y a trop de retours JR.
Bien, merci Christian de Kinshasa. Professeur Serge Pangou, vous avez la parole.
Oui, exactement, vous suivez vous-même les auditeurs. Mais vous m'aviez posé la question, moi je vous ai dit, l'investissement est insignifiant. Alors là, laissez-moi vous dire quel investissement. D'abord, en termes de capitaux, l'argent mis, je parle en termes terre-à-terre, oui. Le capital investi, certes, il représente quelque chose. Mais comment on le gère? La mauvaise gouvernance a fait que tout ce qu'on a investi comme argent dans la SNEL, est-ce que vous pouvez croire, M. Jordi, que la SNEL ne paye pas ses travailleurs, alors que le courant électrique est vendu? Où vont les recettes? On dira que ce n'est pas assez. Mais pourquoi ce n'est pas assez? C'est peut-être sous-taxé, mais pourquoi? Vous voyez, avec une gouvernance bricolée, avec un personnel, je vous dis qu'à la SNEL, il y a plus de... Donc, tout ce que vous voyez comme agent sur le réseau là, 60% sont des journaliers. Vous pouvez comprendre que des journaliers tiennent une entreprise. Et comment ils peuvent tenir une entreprise?
Et d'ailleurs, ce sont ces journaliers dans les quartiers qui tripotent les cabines pour se faire de l'argent.
Ils donnent du courant qu'ils veulent, oui. Et vous voyez que l'investissement est insignifiant en termes de capitaux, en termes humains, en termes de matériel. D'aucuns vous ont parlé ici de manque d'entretien. Donc nous revenons au même problème. C'est l'investissement qui est insignifiant. Il faut que notre politique énergétique soit repensée de fond en comble. Et puis, il est temps, au lieu que nos diplomates puissent aller s'asseoir partout où ils sont là, c'est le moment de trouver des investisseurs pour investir dans ce domaine qui est vierge, mais sans énergie. Mais écoutez, quand moi ça me fait pitié un peu quand j'entends mes frères intervenir, ils ne parlent que du courant pour les ménages, vous avez suivi Jordi. Ils parlent du courant, ah, nous sommes dans le noir, nous sommes dans l'insécurité. Donc ils ne voient que le minimum des courants possibles. Mais toutes ces ressources, nous disons scandale géologique, scandale idéologique, scandale sociologique. Nous sommes un scandale de potentiel. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de ces scandales-là? Comment il va se développer sans énergie?
Professeur Serge oui. Pangou, aujourd'hui la desserte en électricité dans notre pays est faible.
Elle
varie entre 10 à 15% des 80 millions d'habitants. Le pays regorge encore.
15 même c'est trop, 15 c'est trop.
15, c'est trop, d'après vous?
C'est trop.
Alors,
oui.
Nous sommes censés, il s'est tenu dernièrement à Matadi, vous savez, du 20 au 22 oui. août dernier, le forum oui. Sur l'énergie électrique. Et il y a ce projet de renforcer Inga 3 qui devrait générer 11 000 mégawatts et oui. qui pourrait alimenter une bonne partie de l'Afrique.
Oui.
Alors aujourd'hui, oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la fourniture en énergie électrique dans notre pays?
Et laissez-moi vous dire déjà aujourd'hui, avant de répondre à votre question, moi j'ai suivi toutes les études d'Inga 3 jusqu'à l'atelier final à Pullman Hotel. J'étais présent. Je vous dis que ces projets-là, les clients pour acheter l'énergie sont déjà là et connus. Ils sont là, les clients sont là. D'ailleurs, il y en a qui ont même manqué. Quand ils ont souscrit, il n'y en avait plus. Mais depuis 2012 que les études de faisabilité ont été réalisées, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans. Est-ce que vous avez vu qu'on est en train de construire Inga 3? On est en train de tergiverser. Et il y a des ONG qui se trouvent être, c'est pas moi, ils disent non, c'est Inga qui fait qu'on n'ait pas de poissons. C'est combien de tonnes de poissons déjà on sort dans le fleuve là, entre Boma c'est de la distraction tout ça. Moi, je dis ceci.
Ben, pour Inga 3, je sais qu'on attendait les financements, les Sud-Africains et d'autres partenaires devaient préfinancer.
Et quand nous avons connu le boom ici minier, qu'est-ce que nous avons fait? Et l'argent qui est venu du point d'achèvement, on pouvait pas commencer nous-mêmes d'abord? Donc ça, bon, je ne donne pas, moi je ne gère pas la République, mais je dis ceci, moi je suis un chercheur, je dis que nous devons commencer quelque part. Avant qu'on vous aide, il y a un adage qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je vous dis ce que nous gaspillons en termes, maintenant là je suis à météo, je vois que toute la station a été vendue, on a construit des villas pour dormir dedans. Je vous dis que notre comportement frise l'irresponsabilité. Et c'est comme si nous, on a un pays à part qui doit évoluer de sa façon. Alors que la roue ne s'invente pas. Nous avons des écoles d'ingénieurs. Nous avons des barrages qui existent. Nous avons des structures qui ont été déjà implantées. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le réseau de distribution seulement. Il est piteux. Ça signifie quoi? La SNEL est dépassée, ça c'est clair. Elle est dépassée. La charge est trop lourde. Il faille que l'État prenne ses responsabilités. Soit qu'il délègue d'autres entreprises à faire ne serait-ce que la distribution seulement. Et la SNEL va rester seulement avec la production. Et vous verrez que ça ira vite.
Mais je pense que le secteur a été libéralisé. Est-ce qu'il y a des entreprises
mais
qui veulent...
Il y a des investisseurs. Libéraliser sur papier, c'est bon. Et vous savez que les Africains, si vous voulez leur cacher quelque chose, mettez ça par écrit. Libéraliser, mais à longueur de journée, est-ce que toi tu as déjà suivi un ministre qui est allé quelque part parler de noms potentiels pour essayer de séduire ceux qui ont de l'argent pour venir investir? Il y a des gens qui ont de l'argent de par le monde et qui veulent l'investir. Mais il faut un management opérationnel. Il faut des dirigeants capables d'affronter, de relever les défis à la taille de ce pays continent. Nous n'allons pas continuer à pleurnicher, mon cher Jordi. Nous devons sortir de notre tanière et frapper des grands coups. Pourquoi?
Bien, professeur.
Les Éthiopiens peuvent construire des grands barrages et pas le Congo. Pourquoi?
Professeur,
plus nantis que nous.
On va accueillir un auditeur, c'est James depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
James, quelle est votre préoccupation par rapport à l'énergie électrique?
Oui, ma préoccupation est celle qui dit que non. En ce qui concerne le secteur de l'énergie électrique, il y a un sérieux problème partout en RDC, particulièrement ici dans la ville de Lubumbashi, où je suis. Nous connaissons des périodes de coupure du courant électrique dans plusieurs quartiers. Informez-vous même sur à votre sous-station de la radio Capi ici. Ces coupures vont jusqu'à plusieurs semaines dans certains quartiers sans courant électrique. Ce qui est à la base de plusieurs cas d'insécurité qui sont en train de se perpétrer dans des différents quartiers ici à Lubumbashi, parce que partout où il n'y a pas de courant, les voleurs, les brigands, les dérobeurs ici profitent pour aller faire leurs exactions là-bas. Et chaque fin du mois, vous voyez que les agents de la semaine viennent avec des factures de 30 jours. Ils viennent avec des papiers où vous devez payer l'argent de tous les 30 jours alors que vous avez consommé le courant peut-être pendant 14 jours ou même 10 jours, ou même pas. Et quand vous essayez de demander pourquoi le courant est vraiment avec beaucoup de coupures comme ça, ces derniers moments, ils vous disent que non, le niveau d'eau a baissé dans les fleuves, le niveau d'eau a baissé là où on a placé des barrages, tout ça, il fallait comprendre. Mais ils nous demandent à nous, les habitants, les consommateurs du courant, de comprendre que le courant n'est pas stable parce que le niveau d'eau a baissé. Mais eux ne comprennent pas, ils nous amènent des factures de 30 jours nets. Et ils profèrent même des menaces à certains habitants pour dire, si vous ne payez pas, on vient couper le courant, tout ça. Et ils viennent même couper, comme dernièrement dans la parcelle où je suis. Mmh. On a coupé le courant seulement parce qu'on n'avait pas payé, on était déjà aux dates 17 du mois prochain.
D'accord, merci James Del Mbashi. Professeur Serge, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, bon, mais c'est clair, mais j'ai bien dit que d'abord, la majorité du personnel qui opère sur le réseau n'a pas qualité, parce qu'ils sont des journaliers. Et donc, c'est des gars qu'on paye un petit salaire de misère pour que la SNEL, qui est donc, si vous allez à la direction de la SNEL, vous serez étonné par le nombre de bureaucrates qui sont là-bas. C'est plein dans les bureaux là-bas. Mais sur le terrain, tout le monde est... le réseau est confié à des journaliers. Et vous comprenez que ces journaliers ne se sentent pas responsables vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, ils posent des gestes comme ceux que lui est en train de déplorer. Alors, moi, je dis ceci, je persiste, je dis qu'il faut que l'on trouve un moyen pour que la SNEL ne s'occupe plus de la distribution, qu'elle reste à la production et que la distribution soit confiée soit au privé ou encore à d'autres entreprises partenaires qui seront des partenaires avec l'État, ou alors que l'État crée carrément une autre entreprise qui va s'occuper de la distribution, parce que la SNEL est vraiment gangrénée par toutes sortes de mots que moi je ne peux pas comprendre. Et si nous continuons à cette allure-là, je vous dis que tous nos plans de développement vont échouer. Parce que vous savez, le travail c'est quoi? Le travail c'est la force par le déplacement. C'est-à-dire il faut déplacer quelque chose pour produire un travail. Or pour déplacer quelque chose, il faut de l'énergie. Et nous, sans énergie, tous nos plans de développement seront voués à l'échec. Je suppose que les autorités de ce pays finiront par comprendre que sans énergie, tout ce qu'ils sont en train de concocter comme plan, ça ne passera pas. C'est zéro. Nous allons tourner en rond. Et donc, la SNEL a aujourd'hui une très grande responsabilité dans le décollage, enfin, de notre économie. Et puis, l'électricité elle-même, c'est une grande source d'argent. Une grande source, si pas la meilleure après les mines. Si on doit bien développer ça, c'est un secteur qui peut générer des milliards et des milliards de devises. Et donc, c'est vraiment quelque chose à repenser, parce que les forums comme ceux de Matadi, il y en a eu à Goma, vous connaissez, on a eu les états généraux de l'énergie, ça n'a accouché toujours que d'une petite souris. Et donc, ce n'est plus le moment de continuer à penser. Maintenant, il faut agir. Il faut agir, que le nouveau gouvernement puisse agir. Agir dans le solaire, agir dans la biomasse, ça pour, par exemple, alimenter ses habitants en énergie électrique pour les besoins des ménages. Mais développer l'hydroélectricité pour le business et puis développer l'industrie. Voilà mon avis. Et je vous dis que la SNEL est à refaire. Je me demande si on a fait des audits là-bas, parce que ça ne fonctionne pas, cette boîte-là. Ça ne fonctionne pas. Regardez.
Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Est-ce que la facture. Toujours en retard. Comme s'ils ont du travail à faire. Donc, vous vendez quelque chose et pour donner la facture, vous mettez 3 mois. C'est pas possible. C'est pas possible.
Alors, d'après vous, la SNEL ne devrait plus s'occuper, ne devrait s'occuper que de la production. D'autres entreprises peuvent prendre le transport et la distribution de l'énergie.
Oui, la distribution, on confierait ça à des privés ou on créerait une entreprise partenaire de l'État qui serait une entreprise mixte qui serait même étrangère. Moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait de l'énergie et suffisante pour développer toutes ces potentialités que nous avons. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis, qu'on cesse d'utiliser des journaliers pour entretenir le réseau dans l'immédiat, là. Qu'on les engage au moins. L'ISTA forme des techniciens, les écoles d'électricité à Kinshasa ne manquent pas. Hein, mais il y a l'ISPT partout là. Alors, à l'université, on forme des ingénieurs électriciens. Mais pourquoi on ne les engage pas carrément? Vous avez déjà vu un journalier qui peut faire 5 ans, 9 ans journalier? Ça c'est quoi? C'est de l'escroquerie, pour être simple.
Bien. Mais nous parlons de comment améliorer la fourniture en énergie électrique en République démocratique du Congo avec le professeur Serge Pangou, hydrologue et géographe. Nous allons faire un tour du côté de Kananga. Certaines personnes sont d'avis que l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique en RDC nécessite l'implication de l'État, voire des privés, avec la construction des micro-barrages hydroélectriques et l'installation des panneaux solaires. Les autres estiment aussi que la population a intérêt à veiller à la protection des câbles et de la SNEL tout en s'acquittant des factures mensuelles du courant. Ils ont réagi au micro de notre confrère Blaise Ndongala Mayanda.
Pour moi, la seule manière qui peut au moins nous aider à avoir de l'électricité en RDC, donc ils peuvent chercher même des panneaux solaires et ça peut nous aider à avoir du courant. Comme ici au Kassai, si le gouvernement finissait les travaux, construction du barrage Katende, c'est aussi un moyen qui doit au moins nous permettre d'avoir du courant ici au Kassai central parce qu'on souffre énormément.
C'est déplorable dans une grande ville comme Kananga où les gens manquent du courant. Il y a aussi le projet des panneaux solaires qu'on appelle ici Mégatron. C'était déjà avec le gouverneur Alex Kande qui avait déjà ces projets-là. On nous dirait que les histoires n'est pas tombées en panne, sauf que si on mettait des moyens, on va encore relancer ça. On va relancer ça pour que tout le monde ait au moins accès au courant. Barrage Katende, où les travaux avaient déjà commencé, malheureusement, on a arrêté ça. On ne sait pas c'est dit à quoi. Nous demandons seulement aux autorités de faire quelque chose actuellement au 21e siècle. Une province ou un pays sans courant, c'est déplorable. Nous, les jeunes, on va faire quoi? Parce que c'est avec le courant qu'on peut produire, c'est avec le courant qu'on peut investir aussi. Sans le courant, donc, on est foutu, il n'y a pas de développement. Je pense que si on veut vraiment que les pays se développent, on doit d'abord commencer par là.
Premièrement, je proposerai au gouvernement de rendre d'abord viable le projet Chute Katende, ça c'est un, et de deux, que le gouvernement puisse doter du carburant à la société SNEL et aussi que les clients puissent acquitter de leurs factures à la société SNEL afin que l'énergie soit vraiment en permanence.
À ce sujet, je n'ai pas beaucoup à dire, mais s'il faut dire, je demanderai au gouvernement d'initier le programme des installations des panneaux. Et le ville peut dépendre des installations des panneaux. À part ça, on a beaucoup de cours d'eau. Le gouvernement peut créer des barrages, afin de fournir l'électricité à la population. Parce que les barrages qui sont là sont des anciens barrages. Si le gouvernement peut, à partir des cours d'eau, initier d'autres barrages, ça sera mieux.
C'est une question déjà réglée par la constitution de notre pays, du fait que l'accès à l'électricité, c'est un droit pour tous. Et c'est une obligation. Cette amélioration nécessite une prise de conscience des autorités. Les autorités puissent se sentir qu'ils ont quand même un devoir à donner du courant à l'ensemble du pays. Qu'on soit citoyen en milieu rural ou en milieu urbain, on a droit à l'électricité. Mais cette amélioration dépend aussi des citoyens. Aussi, aujourd'hui, il y a des citoyens qui volent les câbles des SNEL. Cela aussi montre qu'on a une responsabilité partagée. Mais cet accès aussi nécessite à ce que les pays puissent avoir des micro-barrages en milieu urbain et en milieu rural qui peuvent être nés à la suite des initiatives du gouvernement, tout comme des privés. Parce que les privés aussi ont appelé à investir, ont appelé à innover. Et cette innovation, notre pays, il y a beaucoup de gens qui ont de moyens, mais qui n'investissent pas dans ce secteur. Or, c'est un secteur producteur de revenus, de recettes. Mais une autre préoccupation aussi, moi, en tant que client de la SNEL et consommateur du courant, nous remarquons que tel qu'a prôné notre chef de l'État, nous sommes dans le système gagnant-gagnant. Et nous avons constaté qu'il y a trop de coupures de courant. Alors, mais moi, j'ai pensé, un jour, si on peut mettre en place une organisation des consommateurs d'électricité pour que nous puissions suivre à la loupe. Quand il y a coupure, on coupe aussi. Nous calculons à la fin du mois pour dire non, on a consommé comme ça.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Merci Blaise Ndonga la Mayanda pour ce vox pop. Les citoyens de Kananga se sont exprimés par rapport à l'énergie électrique, surtout cette question du barrage de Katende jusqu'à aujourd'hui qui n'est jamais terminé. Et pourtant, les gens avaient fondé l'espoir sur ces barrages qui pouvaient les desservir en énergie électrique. Professeur Serge Pangou, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre?
Oui, dit Daniel. Écoutez, vous suivez l'amertume dans la voix de tout le monde qui répond. Et vous comprenez qu'Atende, je le disais, c'est-à-dire que le plan existe, le plan directeur pour le développement de cette hydroélectricité existe. Mais maintenant, regardez comment on applique ça. Donc, c'est du saupoudrage, on commence un ouvrage, on ne le termine pas. C'est du gaspillage. C'est-à-dire, si tout ce qu'on a laissé inachevé là, si on avait construit d'abord un, puis on termine, puis un autre, puis un autre, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On dit qui trop embrasse mal étreint. C'est-à-dire, le problème, le vrai, vous constatez que le courant dont parle le commun du mortel congolais, c'est le courant domestique. Donc, si déjà le courant domestique manque, mais Daniel, vous êtes en train de nous diffuser là sur... Et s'il n'y a pas d'électricité dans votre studio, vous allez faire quoi? Rien du tout. Si mon téléphone n'est pas chargé, nous ne serons pas causés. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir cela, qu'on se mette à parler encore du courant, même ici où je suis là. Le courant, il n'est pas là, il est parti. Et donc, je vous dis que le problème est très sérieux. Le barrage de Katende, on en a tellement parlé. Les équipements ont été envoyés sur pas. Sûrement que des décaissements ont été faits. Est-ce qu'on a suivi? Ce pays, moi, je crois que d'abord qu'on contrôle, qu'on commence par contrôler d'abord tout ce qui existe, qu'on fasse un état des lieux, que la magistrature s'y implique, que les gens cessent de poser des gestes comme s'ils étaient dans la jungle. Comme ça, au moins, ils savent qu'il y a le droit. Si vous utilisez l'argent de l'État, parce que là, c'est notre entreprise à nous tous. Nous sommes tous des propriétaires. Mais regardez comment nos frères gèrent ça. C'est déplorable. Une entreprise qui a plus de 40 ans maintenant, 50 ans, mais qui fonctionne comme si elle venait d'être à peine créée. Il n'y a pas d'avancement. Donc, pour moi, les projets Katende et tout ça, je veux bien, mais qu'on commence par... D'abord, on a commencé, qu'est-ce qu'on a projeté de faire sur l'ensemble de la République? Qu'on classe selon les priorités. Et pour moi, les zones prioritaires seront les zones où l'énergie est utilisée pour les besoins de développement communautaire. C'est-à-dire l'industrie, tout ce qui fait vivre la nation. Et des deux, nous devons changer, diversifier les sources d'énergie. Je vous ai dit qu'il est de loin plus facile de donner du courant domestique avec la biomasse ou le solaire, qu'avec de l'hydroélectricité, ça demande trop de moyens. Mais en diversifiant, par exemple, on aurait des petites centrales solaires pour alimenter certaines villes de petite taille et certains réseaux, certains quartiers pourront utiliser la biomasse, ainsi de suite.
Voilà, diversifier les sources d'énergie.
Serait réservé à l'industrie.
Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de l'énergie solaire, donc on peut exploiter, oui. On peut exploiter également ces secteurs.
Mais nous en avons plein ici. Je vous ai dit que le soleil chez nous, nous ne le cherchons pas. Il est là tous les jours et du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire, c'est l'une de ressources que nous avons, dont Dieu nous a doté en très grande quantité. Mais nous n'utilisons pas ça. Regardez même à Kinshasa ici. Vous allez voir combien de personnes utilisent le solaire. Très peu. Et pourtant, il y a moyen de le faire. Mais ce solaire-là, pourquoi? Parce qu'on compte sur la SNEL. Et la SNEL ne fait aucun effort pour améliorer son réseau. Et donc, moi, je pense que la vraie solution, c'est une restructuration de la SNEL de fond en comble. Une restructuration sérieuse. En impliquant toutes les agences qu'on vient de créer là, on va à la SNEL, on la restructure sérieusement. On regarde de tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que je crois que ceux qui produisent de l'électricité, ceux qui entretiennent les barrages, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai été à Inga, j'ai admiré le courage de ces gens-là. Mais le courant ne se stocke pas, monsieur Daniel. Le courant, c'est pas comme de l'eau. Le courant, quand il sort, il faut l'utiliser et tout de suite. Mais alors, le réseau est défaillant. Que voulez-vous? Donc, même Inga là tourne à perte, si vous devez voir. Tous les barrages là, ça tourne à perte. Parce que il n'y a aucun réseau fiable dans le pays ici. Aucun. Nulle part. Il n'existe aucun réseau fiable ici. Et donc, nous, l'État investit, mais rien ne sort. Pourquoi? Parce que la SNEL a l'esprit ailleurs. Et elle ne tourne pas. C'est une entreprise, vraiment ce qu'on appelle un canard boiteux. Excusez-moi le terme pour les amis est-ce de la SNEL,
Est-ce que ce n'est pas parce que l'entreprise, l'État ne donne pas suffisamment de moyens à cette entreprise pour tourner à plein régime?
Bien, je disais problème de capitaux. D'abord, l'État propriétaire, est-ce que l'investissement qu'il a donné est suffisant? Je ne pense pas. C'est obsolète, je vous dis. Depuis qu'on a construit les barrages d'Inga, ça fait combien d'années? Mais ça devait être un barrage déjà amorti. Si c'était dans la bonne gouvernance, on aurait déjà récupéré cet argent-là. Mais est-ce qu'on peut vous faire une comptabilité à propos de cette construction du barrage d'Inga et de ce que ça a pu générer? On ne saura pas. Pourquoi? La mégestion, la mauvaise gouvernance. Et maintenant, je m'excuse, s'il faut considérer les nouvelles implantations des centrales hydroélectriques, il y en a à gauche, à droite. Mais on a abandonné Moba Imbongo, là, vous avez suivi notre frère de Zongo. Mmh. Et dans cette ambiance-là, mon frère Jordi, comment peux-tu comprendre qu'un jour, nous puissions nous attendre à quelque chose de mieux? Moi, je trouve que la SNEL devrait être restructurée complètement. Son statut de société commerciale qu'on lui a donné ne lui colle pas à la peau. Et parce que le comportement est resté le même. L'entreprise n'est toujours pas performante. On a appelé des Manitoba ou quoi. C'est une entreprise toujours assistée par des étrangers. Mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi? C'est gangréné. Il y a rien de bon dedans. On ne peut pas faire du durable avec du laitus. Ça ne se fait pas. Quand les gens
Mais
ont
comment,
les mêmes idées,
comment voulez-vous
même si
que,
vous changez
vous,
les lois.
Professeur, comment voulez-vous que la SNEL fonctionne à plein régime si les clients qui consomment l'énergie ne payent pas les factures comme il faut?
Mais pourquoi ils ne payent pas? Pourquoi on paye la régie des eaux? Parce que le courant, il est hasardeux, mon frère. On paye le service, on ne paye pas la SNEL. La SNEL vous donne le courant quand elle en a besoin, ou pour juste vous plaire. Vous savez qu'il y a des quartiers où, lorsqu'il y a un match de football, par exemple, des Léopards, on coupe le courant dans tout le quartier pour que les tenanciers des bars puissent vendre la bière, mettre leur télévision là-bas, et tout le quartier va suivre les matchs là-bas et quitter sa maison. Vous comprenez ça? Et ça, c'est les gens de la SNEL qui font ça. Je ne vous apprends pas, vous habitez Kinshasa. Donc, je vous dis ceci. L'État peut... J'ai dit au départ que l'investissement, il est vrai, n'était pas à la hauteur des potentialités. Les potentialités sont immenses et il faut un investissement conséquent. Et je vous ai dit que cet investissement doit être pas seulement en termes de... En termes financiers, mais aussi en termes de il n'y a des richesses que d'hommes. En termes de main-d'œuvre, en termes d'intelligence, en termes de compétences. Mais je crois que la SNEL, elle est restée statique de ce point de vue. Statique. Tu as déjà entendu parler d'une innovation venant des techniciens de la SNEL? Rien du tout. Rien.
Mais aujourd'hui on a le courant. Professeur, nous avons le courant prépayé. Vous avez suivi quelqu'un parler maintenant de l'énergie prépayée.
Oh, c'est quand même. C'est une affaire des ABC. Ce n'est pas la SNEL du tout. Ce sont les autres qui ont amené ça encore. Donc, et prépayé, c'est combien de clients sur le réseau prépayé? C'est zéro par rapport à qui que ça. C'est nul. Moi, j'ai toujours attendu ça chez moi. Parce que, au moins là, je suis responsable de ma consommation. Si les gens ne payent pas, c'est parce que souvent, les taxations sont forfaitaires. Et quand on donne des tarifs forfaitaires aux gens, regardez, vous-même, je ne sais pas si chez vous, il y a un compteur. Vous allez voir, dans la majorité des maisons aujourd'hui, il n'y a pas de compteur. Mais on vient de poser la facture.
Alors, donc, professeur, vous avez dit...
facturation tacite.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour améliorer la situation? Vous avez dit que la SNEL devait rester seulement dans la production et qu'on confie le transport et la distribution à une autre entreprise.
À d'autres entreprises. Parce que si aujourd'hui, le carburant ne manque pas, parce que CEP ne fait que distribuer, vous voyez? Le CEP ne fait que distribuer et c'est très efficace, vous voyez que ça marche. Et aujourd'hui, il a été emboîté par les DIA et les autres. Et donc, on peut faire la même chose avec l'électricité. La SNEL produit l'électricité, mais les transports et les lignes sont gérées par une autre entreprise. Et la distribution elle-même est gérée par une autre entreprise encore. Comme ça, ces trois entreprises-là, ensemble, peuvent fournir un travail de qualité. Parce que celui du réseau ne va surveiller que les réseaux. Celui de la distribution, lui, ne va surveiller que la facturation et le reste. Et vous verrez que ça va marcher. Et puis, je dis ceci, on doit aussi diversifier les sources d'énergie. C'est-à-dire utiliser des énergies qui sont bon marché dans par exemple pour fournir de l'électricité à la population. On n'a pas besoin d'autant de mégawatts comme si dans une industrie pour alimenter une maison en énergie.
Mais professeur, là il n'y a pas que la SNEL qui va s'occuper de tout ça. D'autres investisseurs
peuvent. Non, ce n'est pas la SNEL. Oui. J'ai dit là. En diversifiant, la SNEL va s'occuper de l'hydroélectricité, mais une autre société peut s'occuper du solaire, et une autre peut s'occuper du biogaz, une autre peut s'occuper de l'énergie thermique. Je vous dis que nous avons des possibilités incommensurables dans ce pays. Je vous ai dit que nous avons même de l'eau chaude qui sort de la terre naturelle. Nous avons ça. Mais toutes ces sources-là, il faut de l'ordre d'abord. L'État doit mettre de l'ordre. Et il faut que ça soit suivi. Il fait un manque de suivi.
Professeur, professeur, un instant, on va accueillir deux auditeurs, Wamenga de Kisangani et Simon-Pierre de Kananga. Wamenga, vous êtes de nouveau en ligne. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'amélioration de la fourniture en énergie électrique?
Oui, bonjour, j'étais en train de parler sur le signal qui avait sauté. Oui. Je suis à Kisangani. Présentement, à Kisangani, il n'y a pas du courant. Nous ne savons pas ce que la SNEL fait exactement à Kisangani. Des fois, on peut passer 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de courant. Même les gens qui utilisent le système prépayé, il y a du courant stable à Kisangani. C'est-à-dire, nous sommes dans le noir, c'est comme s'il n'y a pas le central hydroélectrique. Pendant que moi, j'ai suivi discours des chefs de l'État sur les 100 jours, le président de la République avait épinglé la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Et moi, je me demande si le président avait dit que la centrale hydroélectrique de la Tchopo figure dans le programme des 100 jours et que l'argent était débloqué. Pourquoi la justice n'était pas diligentée une enquête pour savoir pour savoir la fréquence de l'utilisation de ce fonds? Comment est-ce que ce fonds a été géré? C'est ça que nous voulons savoir. Et nous voulons qu'une petite ville comme Kisangani, qui n'a pas de courant, par exemple, la commune Makiso, qui est alimentée du lundi au vendredi et samedi, dimanche, ce sont des communes périphériques. Je vous dis, monsieur le journaliste à Kisangani, il y a des communes qui sont servies seulement une fois la semaine, soit 4 jours le mois. imaginez, si vous avez vos appareils à la maison, comment est-ce que les appareils vont être utilisés? Donc, il y a un sérieux problème en desserte électrique à Kisangani. Nous demandons les enquêtes pour savoir si seulement si la fenêtre travaille. Et il y a toujours la surfacturation. Il y a toujours la surfacturation. On vous amène une facture de 60 000, de 50 000, de 40 000 pendant qu'il n'y a pas du courant. Même s'il n'y a pas du courant pendant 2, 3, 4 mois, la fenêtre facture toujours les abonnés. Alors, nous voulons que le gouvernement central puisse diligenter une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe justement pour la centrale hydroélectrique de la Tchofo. Voilà ma contribution à ce niveau du débat.
Merci, Wamenga de Kisangani. Simon-Pierre, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'énergie électrique?
Ah oui, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous avez offerte. Aujourd'hui, c'est présentement dans la ville de Kananga, dans la commune de Lukonga, où nous sommes en train de subir des difficultés par rapport à l'énergie. Vous voyez que la Banque mondiale a ses propres projets à mettre en place ici. Il y a beaucoup d'investisseurs à partir de la coopération bilatérale et multilatérale effectuée par notre président. Mais ce que nous sommes en train de regretter, c'est quoi? On vient ici, chez nous ici, à Kananga, nous avons les chutes Katende. Vous trouvez que on nous dit que les travaux sont en train d'évoluer jusqu'à 60%. Mais lorsque certains experts sont descendus sur le terrain, ils nous disent que rien ne fait. On est ici à 20%. Ce qui veut dire que notre pays souffre sur le plan du suivi, parce que la réussite de tout projet est liée au suivi. Donc, l'État doit mettre en place un système de suivi cohérent, pertinent, qui peut vraiment nous conduire à des résultats escomptés. Parce que si vous trouvez ces travaux-là sont, on dirait, sont mis en pause, ça ne fonctionne pas. Mais on nous dit toujours on est à 70%, on est à 60%, alors que rien ne fait. Donc, nous prions, nous suggérons en termes de ces mots que l'État puisse mettre en place un système de suivi dans tous les projets, et surtout sur le plan électrique ici, pour qu'on puisse éclairer.
Voilà, vous étiez en train de répondre aux préoccupations des auditeurs. Wamenga oui. de Kisangani et Simon-Pierre oui. De Kananga.
Oui, oui allez-y. Oui. Je disais donc que, par exemple, pour le cas de Kananga, le barrage de Katende oui. devrait, à mon avis, être déjà terminé il y a longtemps. C'est depuis longtemps qu'on en parle. Est-ce que l'État n'a jamais déboursé, décaissé l'argent pour la construction de ces barrages? Si c'était fait, qui a eu cet argent? Mais qu'on aille lui poser la question. C'est des histoires de l'État, on ne doit pas blaguer avec. Le barrage de la Tchopo, je ne sais pas s'il était dans le 100 jours, bon, je n'ai pas des informations claires là-dessus. Si c'était le cas, si le travail n'a pas été fait. Mais maintenant, nous savons au moins qu'il y a des juges qui peuvent quand même poursuivre les gens jusqu'au bout. Donc, on n'a plus, s'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Moi, je trouve, comme je vous disais, monsieur Daniel, le problème, c'est d'abord la gouvernance. Vous savez, il n'est des richesses que d'hommes. Avec très peu de moyens, il y a des gens qui ont développé leur pays. Et vous savez, il y a un Asiatique là, je sais pas, un Cambodgien ou qui a dit que moi je suis venu au pouvoir, je pouvais attraper des sous pour ma famille et mes amis. J'aurais à ce moment-là beaucoup d'argent et mes amis se seraient développés, ma famille serait très bien. Mais j'ai préféré travailler pour mon peuple, pour qu'aujourd'hui, mon peuple ne soit pas comme je l'ai trouvé.
Bien, professeur. C'est ça. Professeur oui. Serge Pangou, pour terminer, je rappelle que vous êtes hydrologue et géographe. Pour terminer, on oui. retient, vous avez dit qu'il faut que la bonne gouvernance, les investisseurs oui. dans les secteurs de l'électricité, et puis oui. diversifier les sources d'énergie.
Oui, les sources d'énergie. Et nous en avons les sources.
Voilà, nous en avons les sources. Merci professeur Serge Pangou, je rappelle que vous êtes hydrologue et géographe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée. Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service consacrée à la fourniture de l'énergie électrique. Comment améliorer la fourniture de l'énergie électrique en République démocratique du Congo? Ne partez pas, restez avec nous, nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission Okapi Service New Look. À tantôt.
Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service consacrée à l'énergie électrique. Comment améliorer la fourniture de l'énergie électrique en République démocratique du Congo? Bien, nous avons dit, comme on l'a dit tout à l'heure, en RDC, l'accès à l'énergie électrique pose problème. Dans plusieurs pays, dans plusieurs villes du pays, il est difficile d'avoir le courant électrique et au fil des années, la SNEL est confrontée à plusieurs difficultés. Aujourd'hui, nous parlons les conséquences sont néfastes. Le délestage est devenu fréquent, sans compter les coupures intempestives de courant. En milieu rural, la situation est encore beaucoup plus préoccupante. La majorité de la population vit dans les noirs depuis plusieurs années. Alors, comment améliorer la fourniture en énergie électrique dans notre pays? Nous avons en ligne l'ingénieur Idriss Koudiye. Il est ingénieur en génie électrique et expert en énergie renouvelable. Monsieur l'ingénieur Idriss Koudiye, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà. Nous savons que la fourniture en énergie, la desserte en énergie électrique pose problème dans notre pays. Aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette desserte en énergie?
Eh bien, merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour remédier à cette situation, et surtout qu'il n'y a pas longtemps qu'on vient de célébrer le 60e anniversaire de notre pays. Et donc, la première des choses, il faudrait que le gouvernement arrête l'implantation des ouvrages énergétique pour des raisons politiques ou encore pour des raisons des capitaux internationaux. Je vais m'expliquer. Vous allez constater que depuis 1970, où nous avons commencé à ériger quelques barrages hydroélectriques à travers le pays, la plupart des centrales hydroélectriques que nous avons aujourd'hui ont été implantées pour des raisons soit d'exploitation minière ou encore d'exploitation forestière, par le pays colonisateur. Donc là, j'ai fait allusion à la Belgique. Et ça, c'est la première des choses. Donc, c'était pas des barrages qui ont été érigés pour desservir la population. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans la plupart des régions à travers notre pays, là où se trouvent ces barrages, les communautés sont complètement dans les noirs. Je prends l'exemple du grand projet Inga. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la population des Inga est dans les noirs, mais on a transporté cette énergie jusqu'à Lubumbashi. Et donc ça,
parce que là-bas, il y a des grandes entreprises minières qui ont besoin de l'énergie.
Oui, exactement, mais l'énergie, il ne faut pas seulement avoir l'énergie pour desservir les entreprises. Aujourd'hui, quand je prends les 80 millions d'habitants de notre pays, il n'y a que 8% de cette population qui accède à l'énergie, mais avec une forme d'énergie très très médiocre. Et donc, quand on parle du taux d'accès à l'énergie électrique sur le plan international ou par rapport à la loi qui régit les secteurs de l'électricité dans notre pays, on ne parle pas du secteur industriel. On parle d'abord des ménages. Il y a combien de ménages qui ont accès à cette énergie? Et donc, j'étais en train de dire que la plupart des ouvrages énergétiques ont été implantés pour des raisons égoïstes par les impérialistes ou encore pour des raisons politiques. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la centrale de Kakobola, Katende, qui ont été érigées pour des fins électorales. La preuve en est que ces centrales aujourd'hui ne fonctionnent plus, les travaux ne sont pas finis. Je prends le cas de Kakobola où nulle part vous verrez au monde on a construit une centrale hydroélectrique. On n'a pas pris en compte l'asphaltage de la route qui mène vers cette centrale. Et nulle part vous verrez on a construit une centrale. On nous dit on oublie les transports énergétiques. Vous allez à Katende aujourd'hui, les matériels sont restés comme ça. Pourquoi? Parce que c'était des ouvrages qui étaient implantés pour des fins politiques. Donc ça, c'est la première des choses. Il faudrait que le gouvernement actuel, que le président de la République pense qu'on doit ériger ces ouvrages pour desservir d'abord les populations. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faudrait que les Congos puissent arriver à faire les plans d'électrification d'une manière sectorielle. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes potentiels énergétiques. Et toutes les provinces n'ont pas le même besoin énergétique. Et donc, il faut passer par faire des plans sectoriels pour chaque province, par exemple, déterminer d'abord les types de potentiels énergétiques que cette province possède, et puis mettre en marche un mécanisme de mise en place des ouvrages énergétiques. Aujourd'hui, vous allez voir que quand vous lisez la loi 14-11 qui régit le secteur de l'énergie de notre pays, les provinces sont considérées comme des cadres institutionnels. Donc il y a le ministère national de l'énergie, il y a l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, il y a l'agence nationale d'électrification en milieu périurbain, mais il y a également les provinces. Mais vous allez voir qu'aucun gouvernement provincial, aucune province en RDC, j'ai même ma main à couper, il n'y a aucune province qui a un plan d'électrification provincial. Tout le monde est en train de se référer qu'au niveau de Kinshasa. Mais finalement, et en ce moment-là, ça devient très compliqué. Donc le ministère national de l'énergie, des ressources hydrauliques et puis électricité, ça ne peut rien faire. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Il faudrait qu'au niveau provincial, que chaque province aille, parce qu'ils ont le ministère provincial de l'énergie, que chaque province arrive à dresser un plan d'électrification provincial. Et la troisième solution, c'est qu'il faudrait, et d'ailleurs je salue ce que le président de la République venait de faire il y a trois jours, la nomination des mandataires à la tête de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, mais également l'ANSER. Et félicitations à Madame Sandrine Moubenga qu'on a nommée comme DG, et félicitations à Monsieur Idesbal et Monsieur Kabasele qui vont chapeauter à cette agence. Donc, on attendait ces deux entreprises pour booster la croissance du secteur d'électricité dans notre pays.
Ingénieur Idriss, on a suivi notre premier invité nous a dit tout à l'heure qu'il faut diversifier les sources d'énergie. Aujourd'hui, nous avons la biomasse, nous avons l'énergie solaire, l'énergie éolienne. On peut exploiter plusieurs types d'énergie. On n'est pas obligé d'exploiter seulement l'énergie hydroélectrique.
Je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'avant d'arriver à ce stade-là, l'électricité, c'est quelque chose qui s'est défini par processus. On ne peut pas ériger un projet parce que, bon, les gens sont dans les noirs, ils ont besoin d'électricité. Il y a une procédure. Mais comment vous allez desservir, par exemple, la province du Kasaï central si vous n'avez pas un plan d'électrification? Donc, il faut commencer par dresser d'abord le plan. La diversification, c'est une bonne chose. Mais c'est ce que je viens de dire, il faut identifier d'abord les potentiels énergétiques de chaque province. Je prends l'exemple de la province du Maïndombé. Mais il a un bon potentiel énergétique éolien. Et donc, une fois vous identifiez ces potentiels, vous pouvez maintenant déterminer le type d'énergie qu'il faudrait donner à cette province. Et quand je prends je prends par exemple la partie du Congo central vers Moanda, ils ont une bonne vitesse du vent. Donc il faut diversifier, mais il faut commencer par d'abord dresser les plans d'électrification, parce que au niveau national, on vous dira, voilà, on a l'atlas de l'énergie, mais cet atlas qui a été rédigé il y a plus de 5 ans. Donc on n'a pas le même contexte, on n'a pas la même réalité. Et c'est, d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait que la CNEL aujourd'hui est en train de vivre son déclin, les débuts de son déclin. Parce que la CNEL, à un moment donné, n'a pas suivi l'évolution du besoin de consommation, du besoin de consommateurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, leurs cabines sont devenues impuissantes. Les câbles ne peuvent pas supporter des charges. On a des câbles qui sont brûlés par-ci, par-là, à travers la vie. Donc, je suis d'accord avec lui, mais il faut commencer par dresser d'abord les plans pour chaque province. Il faut commencer également identifier les différents potentiels énergétiques pour chaque province, Et je crois que c'est de cette façon-là que les choses vont aller. Et oui. Maintenant qu'il y a l'autorité de régulation, qu'il y a également l'Agence
Bien.
Nationale donc d'électrification en milieu rural.
Bien. Comment améliorer la fourniture de l'énergie électrique en République démocratique du Congo? Nous allons accueillir tout à l'heure Mbokolo de Mbandaka. Vous voulez participer? Écrivez-nous à service@radiookapi.net ou déposez votre préoccupation sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Comment améliorer la fourniture de l'énergie électrique en RDC? Mbokolo, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Edmond Mbokolo.
Quelle est votre préoccupation, maître Edmond?
Merci beaucoup pour la thématique. À propos de comment améliorer les systèmes de l'électricité au pays. Bon, voilà, je voulais plus m'atteler sur en ce qui concerne ma province de l'Équateur, notamment la ville où je vis, en Mbandaka.
En Mbandaka, il n'y a pas d'électricité depuis toujours, on le sait.
Bon, oui, en Mbandaka, il n'y a pas d'électricité, mais je ne sais pas pourquoi il existe. Une société d'électricité. Il y a la SNEL qui est là, et il y a même quelques machines, il y a des machines qui existent, il y a un bureau de la SNEL qui fonctionne, consomme, mais il n'y a pas du courant. Voilà pourquoi moi j'ai proposé, pour éviter que les remords de la part de la population envoyant le bâtiment de la SNEL qui est chez nous ici, c'est mieux que cette société soit dissoute ou que la société soit totalement enlever hein, ou désorienter de la ville.
Edmond, à l'époque, le gouverneur Bolamba avait un projet de l'énergie électrique, d'introduire l'énergie électrique, d'électrifier la province avec l'énergie renouvelable, l'énergie solaire particulièrement.
Voilà, non, tout à fait, le gouverneur Bolamba, le projet du gouverneur Bahinde, parce que Bolamba est venu hériter, et on a eu quelques panneaux qui nous permettaient un peu d'électrifier les quelques coins stratégiques de la ville. Mais c'était pas l'énergie électrique, c'était l'énergie solaire.
Oui.
Voilà, donc c'est ce que nous utilisons ici chez nous. Ici chez nous, on utilise l'énergie solaire, mais qui nous permet pas, en fait, d'utiliser même tous les appareils ménagers. C'est juste pour regarder la télé, charger les machines, et utiliser un peu pour d'autres besoins. C'est-à-dire que c'est un problème sérieux. Moi, je crois qu'il y a un budget qui est alloué pour l'électricité. Si les autorités au niveau national, le budget qui est alloué ne permet pas de pouvoir doter la province de l'Équateur, par exemple, d'un courant électrique, il serait mieux que, voilà, et moi je propose d'ailleurs que la SNEL soit dissoute et que le budget là, prochainement, soit retiré du budget national. Parce qu'on prévoit un budget et dans la pratique, on ne voit rien. Donc la ville vit dans un noir ou dans un ténèbre semblable à un enfer. On ne sait pas si ici nous allons mourir. Jusqu'à ce que nous allons mourir, nous n'allons jamais voir l'électricité. Voilà. Donc il y a un problème sérieux. Si les autorités peuvent y penser, même au niveau du ministère, de pouvoir installer les centres solaires, ça sera mieux parce que nous avons des forêts, nous avons des espaces, et puis nous avons un soleil accablant qui peut quand même alimenter les panneaux solaires. Voilà.
Bien, merci Maître Edmond de Mbandaka. Nestor, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la fourniture de l'énergie électrique en RDC?
Très bien, comme je l'ai un peu posté dans les commentaires, je dis le gouvernement devrait quand même allouer des fonds nécessaires aux gouvernements provinciaux, aux différents gouvernements provinciaux, pour voir un peu dans quelle mesure entretenir un peu
d'autres moteurs. Par exemple, ici, sur la ville de Kananga, nous avons la Société Nationale d'Électricité. Alors, cette société-là est en faillite, je peux vous dire. La desserte en énergie électrique ne se fait pas voir sur la ville de Kananga. Tantôt, c'est le délestage, la population peut attendre même une semaine sans pouvoir avoir de l'énergie. Sur ce, le gouvernement provincial devra mettre beaucoup plus d'accent sur ces secteurs-là pour allouer des fonds nécessaires. Et aussi, on nous dit que nous sommes dans un pays où il est appelé scandale géologique et énergétique encore. À vrai dire, quand on parle de scandale énergétique, ça veut dire que l'RDC regorge beaucoup, beaucoup de fleuves et aussi des rivières. Alors, le gouvernement devrait aussi créer des fonds, avoir des fonds, investir un peu dans les barrages, dans les micro-barrages et aussi. Comme ici, toujours dans la province du Kassai central, on nous a tant parlé de la chute Katende. Vraiment, ce projet-là, c'est un projet à long terme, mais il n'y a pas eu vraiment la suite favorable quant à ces projets-là. Il y a eu succession du gouvernement. On nous dit que les travaux sont déjà à 75%, ils sont déjà à 65%, 80%, mais jusqu'à la population attend toujours ces projets-là. On nous avait dit même, il y a 2 ans que non, en 2019, la Chiscatienne va donner un peu lancer sa première ampoule. Jusque-là, on n'a pas vu vraiment ces projets-là se matérialiser. Alors, oui. C'est un vibrant appel que nous devons lancer au gouvernement pour qu'il puisse un peu faire du tout, allouer des fonds nécessaires à ce secteur pour que la population puisse un peu profiter de l'énergie électrique. C'est pas un peu ce que j'avais, monsieur, je dis. S'il y a une question, je peux répondre.
Merci Nestor, il n'y a pas de questions jusque-là. Merci Nestor de Kananga. Ingénieur Idriss Koudi, vous avez suivi Maître Edmond de Mbandaka, nous dit qu'il y a un soleil accablant en Mbandaka, favorable à l'exploitation de l'énergie solaire.
Exactement, notre ami de Mbandaka, même celui de Kananga, il a raison. Je connais très bien la situation énergétique de Mbandaka. Et il faut dire que l'Équateur en général présente un bon degré d'ensoleillement. Et donc, ils peuvent avoir des centrales solaires pour remédier à cette situation. Mais c'est ce que j'étais en train de dire, que la plupart des ouvrages ou des projets énergétiques au pays sont faits pour des raisons politiques. Et évidemment, j'étais en Mbandaka lorsqu'il y avait l'implantation, c'était l'éclairage public. Mais il y a de cela 3 ans qu'il y a un organisme international, un bailleur, d'ailleurs je ne vais pas citer son nom, qui avait un projet d'implantation de plus de 150 mégawatts en énergie solaire pour la ville de Mbandaka. Mais du fait que tout est politisé au Congo, je vous dis, ça fait 3 ans et ces projets jusqu'à aujourd'hui traînent. Et je peux vous donner les montants, c'était, je crois, c'est 11 millions de dollars. Mais on ne sait pas pourquoi ça bloque. Et je suis pas d'accord quand il dit qu'il faut dissoudre la représentativité de la SNEL en Mbandaka. Oui, la SNEL n'a pas vraiment réussi à sa mission dans beaucoup de provinces, voire même à Kinshasa. Et c'est parce que tout a été politisé, je dois être ouvert, tout a été politisé. Et donc, je crois qu'il faut garder l'espoir. Et c'est pour cette raison même que j'ai dit que les gouvernements provinciaux doivent être responsables. Vous allez voir que la plupart des gouvernements provinciaux dans notre pays, ils donnent plus l'accent sur les ministères, par exemple, de l'EPST, la santé, mais le secteur de l'énergie, qui est le secteur porteur même, le secteur qui est à la base du développement de la province, est souvent oublié. Alors je me pose une question. Ils ont un budget qu'ils présentent à l'Assemblée provinciale. Et dans ces budgets, il y a toujours une fourchette, il y a toujours une enveloppe pour les secteurs de l'énergie. Et où va cet argent? Oui, c'est une bonne chose. Il faudrait que le gouvernement central appuie. Mais ils ont des fonds, ils ont des taxes. Je prends le cas de Mbandaka. L'Équateur fournit les bois. c'est vraiment la première partie de notre pays qui fournit du bois et toutes ces entreprises chinoises, congolaises, je ne sais pas, qui exploitent les bois. Mais en contrepartie, ils font quoi? En réalité, dans d'autres pays, on pouvait demander, par exemple, voilà, vous exploitez les bois, mais est-ce que vous pouvez ériger une centrale, par exemple, des 100 mégawatts en solaire ou hydraulique? Donc, d'un côté, il y a la faiblesse au niveau du gouvernement central. D'un autre côté, il y a aussi la faiblesse au niveau du gouvernement provincial, ce qui fait que maintenant, la population est victime de cette précarité énergétique. Je reviens à la préoccupation de notre ami de Kananga.
Oui.
Mais, le gouvernement passé avec le président Joseph Kabila, il y a une centrale solaire de 1.8 mégawatts qui a été érigée à Kananga. Mais du fait que les études n'étaient pas très bien faites en amont, et puis à un moment donné, le projet a été politisé, et aujourd'hui, c'est plus de 6 millions de dollars de la RDC qui ont été investis pour rien. Cette centrale ne fonctionne pas. Ils ont importé une expertise, je crois, sud-africaine, une centrale qui devrait fonctionner avec des accumulateurs au lithium. Et la nuit, les groupes électrogènes devraient juste venir en appui au cas où il n'y a pas d'ensoleillement et les batteries sont complètement déchargées. Mais tout cet argent qui était destiné pour l'achat des batteries a été volatilisé. Et aujourd'hui, la centrale ne fonctionne pas. Et moi, mes inquiétudes, j'ai même regretté quand j'ai vu les programmes des 100 jours du chef de l'État, on n'a pas pris en compte la réhabilitation de cette centrale, tout simplement parce que j'aime dire que c'est une centrale qui a été évidemment implantée pour des raisons politiques. Les politiciens n'ont pas la politique de la continuité, et surtout les politiciens africains. Ce qui a été commencé par X, et si moi je viens, je fais la table rase. Et ça dérange. C'est la même chose avec la centrale de Katende. Allez, aujourd'hui, vous allez voir que c'est de l'argent qu'on a jeté comme ça et rien ne marche. La centrale de Kakobola, elle est déjà finie. Mais il manque les transports pour desservir Idiofa, Gungu et Kikwit. Et donc, il faut que les politiques changent quand même leur façon de voir les choses. Mais sinon, nous sommes en train de tourner à rond. Et puis en 2023, ils vont venir, ils vont prendre. Au moment où je vous parle, je suis à 400 kilomètres de la ville de Kinshasa. Mais c'est terrible. C'est dans une zone où les gens n'ont pas d'électricité, et peut-être qu'ils n'ont jamais vu l'électricité.
Il y a plusieurs coins dans ces pays où on utilise, par exemple à Beni, vous trouvez des privés qui achètent des groupes, ils appellent ça qui groupé. Voilà, ils fournissent de l'énergie électrique dans un quartier, dans un rayon donné. Les gens payent les factures à la fin du mois.
Oui, mais c'est pas mauvais parce qu'il faut dire que la loi qui régit le secteur de l'électricité a déjà libéralisé ce secteur. Et j'en profite même pour demander, il faut que le gouvernement ait un lobbying au niveau international pour faire appel aux investisseurs privés. Et même les Congolais qui ont de moyens, il faut le faire. Oui, mais les gens le font parce que ils se prennent en charge. C'est pas seulement Beni, il y a également Kikwit, et je crois il y a aussi Kananga et tout. Mais est-ce que tous ces acteurs privés sont contrôlés? Est-ce que ils sont en train de travailler conformément aux dispositions qui sont prévues par la loi, même si la même loi présente beaucoup de faiblesses? Et donc il y a un laisser-aller et dans ce secteur. Mais moi, je pense que avec la nomination des nouveaux mandataires à la tête de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ainsi que l'agence d'électrification en milieu périurbain, ils vont quand même booster ce secteur. Mais je vous dis, le Congo ne connaîtra jamais son développement si on n'arrive pas à stabiliser la question de l'accès à l'énergie pour tous. Nous sommes membres des accords de Paris sur le climat. Et vous allez voir que sous les 17 objectifs de développement durable, le 7e objectif parle de l'accès à l'énergie pour tous d'ici 2030. Mais depuis cet accord a été signé, nos ministres ont sillonné là-bas, ils ont participé dans beaucoup de réunions, et le représentant de la CNEL, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est en train de régresser, et même le 8% là, c'est pas vrai. Je peux dire qu'on est arrivé aujourd'hui peut-être qu'à 4%, pendant que d'autres pays tels que le Maroc, aujourd'hui, ils sont à 98% des taux d'accès à l'énergie pour tous. Et donc, aujourd'hui, il faudrait que les responsables du secteur de l'énergie arrêtent de faire trop de bruit sur voilà le Congo.
Ingénieur,
ingénieur
Idriss, si je vais vous inviter à faire un tour à Bounia, où certains habitants pensent qu'il faut la volonté politique des dirigeants pour améliorer la desserte en électricité. Selon eux, le paysage regorge d'énormes potentialités pour répondre aux besoins en électricité de la population. Ils déplorent que le courant produit par la centrale d'Inga, par exemple, est vendu aux pays voisins pendant que les Congolais sont dans les noirs. Suivant leurs réactions, les réactions recueillies par Charlie Omba de Bounia.
Pour l'amélioration des courants électriques en RDC, vraiment, c'est un problème de notre gouvernance n'a pas la bonne volonté de distribuer le courant à sa population. Notre Inga fournit le courant aux pays étrangers, mais chez nous, il n'en a pas. Pour améliorer ça, s'ils se sentent incapables de partager ça, puissent donner ça au privé. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui veulent venir au pays, même les natifs de ces pays ont des moyens aussi, ils peuvent aussi fabriquer aussi des barrages pour distribuer ça à la population.
Comment on peut améliorer la fourniture de l'énergie électrique en République démocratique du Congo?
Je ne sais pas à ce niveau qu'est-ce qu'on peut faire. De toutes les façons, cela relève de la volonté politique. Cela relève aussi de la volonté de nos dirigeants de disponibiliser les courants. Parce que lorsque les courants Inga servent d'autres pays, lorsque nous en RDC, on n'a rien comme courant électrique, là c'est un peu compliqué. Autre proposition, c'est que l'État congolais revoie sa politique. Si la Zambie, si disons, prenons par exemple l'Angola, les pays voisins consomment les courants de la RDC que la population congolaise n'en bénéficie pas. C'est aberrant.
On sait qu'actuellement, les barrages d'Inga, au moins 80%, ça s'utilise dans des pays voisins, les Congolais, et même si l'État pourrait encore faire monter d'autres tribunes de civils aux populations congolaises, ça pourra arranger quand même les temps de besoin par rapport à la population congolaise.
Bien, merci Charlie Omba de Bounia pour ce Vox Pop. Voilà, les gens se sont exprimés librement par rapport à l'énergie électrique.
Bon, je crois qu'ils ont complètement raison. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut il faut la volonté politique. Et ils ont soulevé la question des Inga. Je vous ai dit que ce projet a été érigé pour des intérêts de la Belgique, avec quelques politiques animé de la mauvaise volonté de notre pays, et c'est cet héritage qui continue. Nous espérons qu'avec l'actuel gouvernement, on va mettre fin avec cet héritage. Je vous donne un exemple récent. Il y a deux semaines passées, il y avait la conférence panafricaine sur le projet Inga 3. Mais est-ce que ça vaut la peine pour qu'on parle de Inga 3, ce projet qui va rien apporter, qui va pas donner de l'électricité au pays, pendant que le pays est classé parmi les trois premiers pays au monde qui présente un taux d'accès à l'énergie très faible, mais on fait des réunions panafricaines autour de ces projets, le ministre des autres pays. Donc pour dire que la question de la volonté politique, c'est une question très importante, et donc il faudrait revoir les tirs pour que nous puissions aller de l'avant. Mais aussi, ça ne sert à rien aujourd'hui de parler de tous ces grands projets. Ce sont des éléphants blancs. Pourquoi ne pas faire des micro-projets pour desservir les différentes localités dans notre pays?
Ingénieur Idriss, mais il y a déjà plusieurs micro-projets dans notre pays. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas?
Non, mais je vous ai dit. Mais bon, voilà, on n'a pas de micro-projets. Nous avons des centrales. Et la plupart, donc 90% des centrales que nous avons hydroélectriques dans notre pays datent de 1970, c'est entre 65 et puis 1980 et tout. Et imaginez, ce sont des vieilles technologies. Et aujourd'hui, il y en a qui ne fonctionnent pas très bien. Et oui, j'ai entendu les gens de la société civile dire qu'il faudrait réaménager. Mais non, on ne peut pas mélanger les deux technologies et tout. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'il faudrait revoir le plan d'électrification en RDC. Il faut que les ouvrages énergétiques soient implantés pour des raisons de servir des communautés et non pour des raisons politiques.
Oui, ingénieur Idriss, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui promouvoir les énergies renouvelables en RDC?
Ce qu'il faut faire pour promouvoir les énergies renouvelables, d'abord, la première des choses, il faudrait que ces énergies soient insérées dans la nouvelle loi 14.011 qui régit le secteur de l'électricité, parce que cette loi parle que de l'hydroélectricité. Et pourtant, on ne peut pas faire la promotion des autres formes d'énergie si la loi qui régit ce secteur ne reconnaît pas. Et deuxièmement, il faudrait qu'au niveau du ministère de l'énergie qu'on ait des services spécialisés. Je ne parle pas de services politiques ou administratifs, des services techniques dotés de spécialistes, des experts dans toutes ces formes d'énergie renouvelable. Mais au niveau national, il faut rédiger les plans d'électrification nationale, mais ce plan doit se référer au plan rédigé par les différents gouvernements provinciaux. Et mais également, il faut faire un lobbying sur le plan international pour faire appel aux investisseurs privés, parce qu'on se rend compte que on appelle que des investisseurs pour venir exploiter de l'or, du cobalt, ainsi de suite. Mais le secteur de l'énergie, on ne fait pas trop de bruit et par rapport à ça.
Oui,
mais
ingénieur Idriss, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'alimenter toute une province ou tout un quartier avec l'énergie solaire?
Oui et non, parce qu'il faut dire que la seule contrainte avec l'énergie solaire, c'est ça prend beaucoup d'espace. Pour faire par exemple une centrale de plus de 200 mégawatts, il faut ça prend beaucoup d'espace. Mais on peut aller avec des micro centrales. Et d'ailleurs, vous allez voir que toutes les provinces sont couvertes par non seulement par les solaires, mais sont couvertes par des sources d'eau accessible à l'implantation des microcentrales hydrauliques. Et donc, c'est juste faire un plan, et tout en identifiant les différents potentiels, et on peut doter à une province plusieurs centrales énergétiques avec plusieurs formes d'énergie renouvelable. Et donc, il y a une autre solution, un autre élément important, c'est la commission qui s'occupe des questions énergétiques au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette commission ? On entend que des lois qui sont proposées, et toujours, hein, c'est pour des fins politiques, pour des positionnements politiques. Mais je n'ai jamais entendu une loi par rapport au secteur de l'électricité. Il faudrait aussi que les députés qui sont, et là je suis en train de mettre l'accent sur les députés, qui sont dans la commission, qui s'occupent des questions énergétiques, ben, ça doit commencer par eux. Mais ni au Sénat, et ni à l'Assemblée nationale, on parle du secteur de l'énergie d'une manière vibrante. Toutes les questions, toutes les motions, c'est toujours l'économie, la politique, ainsi de suite. Et donc les responsabilités sont partagées, que ça soit au niveau de l'État, que ça soit au niveau du Parlement, du Sénat, mais également tous les acteurs, voire même les hommes d'affaires et congolais qui ne pensent pas investir dans ces secteurs, et pourtant ces secteurs prometteurs qui va booster le développement de notre pays.
Voilà. Donc vous avez dit pour exploiter les énergies renouvelables, les promouvoir, ça, il faut d'abord que cela soit intégré dans notre législation.
Dans la loi 14.011 qui régit les secteurs de l'électricité, parce que dans cette loi, on parle que d'une seule forme d'énergie renouvelable qui est l'hydroélectricité. On ne fait pas allusion à d'autres formes d'énergie. Donc c'est une loi qui doit être révisée.
Mais déjà, est-ce qu'il y a des investisseurs ou des privés qui investissent déjà dans ces secteurs des énergies propres?
Mais exactement, moi je dois vous dire d'ailleurs qu'il y a, excusez-moi de citer les noms, il y a par exemple l'entreprise Dev Solaire qui a une expertise dans les domaines de l'énergie solaire, qui viennent de s'installer il y a une semaine à Kikwit. Ils sont spécialisés dans la conception des micro-centrales solaires, mais également spécialisés dans la conception des micro-projets et sur l'accès à l'eau potable. Et donc il y a des investisseurs, ils sont très nombreux au pays, mais il faudrait également que l'État puisse appuyer ces investisseurs. Par exemple, exonérer tous les matériels qui sont utilisés en énergie renouvelable, comme ça s'est fait au Rwanda ou au Burundi. En ce moment-là, le taux d'accès sera très facile, parce qu'avec la douane dans notre pays, ils importent des panneaux solaires. Et le coût, par exemple, par watt crête sur le plan international, c'est 0,5 $. Mais quand ça arrive chez nous, avec la douane et tout, et avec toutes ces tracasseries qu'on a, douanières qu'on a dans notre pays, et ça va faire que, à la fin, ces investisseurs seront obligés d'augmenter les prix, et ce qui fait que la population ne peut pas accéder à ces énergies. Donc, il y a vraiment, l'État a à 98% la responsabilité de revoir certaines choses.
Oui.
Mais évidemment, le choix des acteurs, les gens qu'on est en train de nommer, je suis très content que l'art et l'enfer à des acteurs qui sont du domaine. Mais il faut que ça continue dans tous les services.
Bien. Ingénieur Idriss Akoudié, je rappelle que vous êtes expert en génie électrique et en énergie renouvelable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okapi,
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Merci d'écouter le magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons de comment améliorer la fourniture en énergie électrique en RDC. Vous savez, l'accès à l'électricité pose des problèmes. L'accès à l'électricité pose des problèmes avec acuité dans plusieurs villes du pays. Donc, les difficultés se posent avec acuité dans plusieurs villes du pays. Malgré la libéralisation de ces secteurs, seule la Société nationale d'électricité, SNEL, garde encore le monopole des productions et distribution de l'énergie. Cependant, au fil des années, cette entreprise publique est confrontée à des difficultés énormes. Conséquence, le délestage est devenu le mode de distribution du courant électrique, sans compter les coupures intempestives. En milieu rural, la situation est encore beaucoup plus préoccupante. La majorité de la population vit dans les noirs depuis des années. Comment améliorer la fourniture en énergie électrique en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Emmanuel Moussouyou. Il est secrétaire permanent de CORAP, qui est la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et actions publiques. Emmanuel Moussouyou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La première question est de savoir pourquoi l'accès à l'électricité demeure un problème dans notre pays.
Oui, il y a plusieurs raisons par rapport à cela. L'électricité aujourd'hui est un luxe pour la population congolaise. Et s'il faut énumérer les défis qu'il faudra relever pour que l'électricité soit accessible pour tous, premièrement, c'est la question sur la politique nationale énergétique qui n'existe pas, ou si elle existe, elle est obsolète, parce qu'elle date de plusieurs années. Ça, c'est un grand défi majeur qui fait en sorte que le projet dans le secteur énergétique, des initiatives tout d'abord dans le secteur d'énergie, ne sont pas assez bien coordonnées. Ce qui suit d'une planification nationale, d'une planification énergétique pas coordonnée également. Et l'impact de tout cela, c'est au niveau de la priorisation de projets. Donc on constate que le secteur de l'électricité aujourd'hui est en train d'évoluer sans un fil conducteur. Et cela, c'est un sérieux problème. Et déjà, au fait, c'est vrai qu'on a une loi sur l'électricité. Vous avez cité laquelle loi qui est venue libéraliser le secteur. Mais malheureusement, on constate que depuis 2014, à ce jour, il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les secteurs parce qu'il y a un problème de mise en œuvre, mise en application de cette loi-là. Il y a des mesures qui ne sont pas exécutées jusque-là, des mesures d'application. Là, je note l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, l'Agence pour la promotion de l'électrification en milieu rural, l'ANSER, les deux structures prévues par la loi qui ont été créées mais pas fonctionnelles parce qu'il n'y a pas d'animateur. Et donc, sur le plan légal, vous comprenez que ce sont là les problèmes. Mais si on quitte ces niveaux-là, il y a un autre sérieux problème dans le secteur, c'est que plusieurs années durant, on n'a pas produit d'électricité. C'est vrai qu'à partir des années 2013, on a constaté qu'il y avait des projets en gestation comme Katende Kakobola, mais il y a aussi Zongo qui a été inauguré depuis quelques années de cela.
Et les travaux n'ont jamais abouti.
Ben, pour certains, oui, mais pour d'autres, comme je pense Kakobola et Zongo. Zongo, imaginez que le barrage a été inauguré, mais on a constaté par la suite qu'il y avait un problème de planification. On a construit le barrage, mais on n'a pas prévu les lignes de transmission. Kakobo l'a également. Et donc, ce sont des problèmes liés à la gouvernance aussi qui font en sorte que le secteur ne puisse pas évoluer. Et tout cela impacte négativement sur la qualité ou bien évidemment l'accès à l'énergie des populations. On reconnaît que jusque-là, il y a la SNEL qui est là comme grand opérateur. Peut-être un petit rectificatif, c'est que il n'est pas le seul qui a le monopole actuellement, parce qu'il y a d'autres entreprises qui commencent à venir, comme Virunga SARL, qui dessert déjà dans quelques villes et villages dans la province du Nord Kivu, par exemple pour Tchourou. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, ils ont accès à l'électricité. Mais le problème, c'est que notre grande société aussi joue pour beaucoup, dans ce sens qu'il n'y a pas un bon réseau de distribution d'électricité. Déjà dans la ville province de Kinshasa, par exemple, où on retrouve de cabines vieux, il y a des câbles vétustes, dénudés, et cela impacte négativement sur la qualité. Et justement, par rapport à cette question de distribution, rassurez-vous, même si on arrivait à réhabiliter toutes les machines de Inga 1, Inga 2 ou dans toutes les centrales, aussi longtemps que le secteur de distribution ne sera pas coordonné, ne sera pas amélioré, rassurez-vous que les communautés ou les populations n'auront toujours pas accès à l'électricité. Vous comprendrez que c'est beaucoup de choses en même temps,
oui.
Ce qui nécessite au fait une implication directe de l'autorité pour arriver, n'est-ce pas, à mettre en place des initiatives qui permettront au fait l'amélioration de l'accès à l'électricité des populations congolaises.
Bien, Emmanuel, nous avons en ligne un auditeur, Nestor, il nous appelle depuis la ville de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les nombreux auditeurs de la radio Capi. C'est Nestor Mwipu à Kananga, dans la province du Kassai Central.
Je l'ai déjà dit, Nestor. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la fourniture en énergie électrique à travers le pays?
Très bien, une bonne thématique du jour, vraiment. Ce que moi j'avais proposé, j'avais dit à ce que le gouvernement central puisse allouer un peu des fonds nécessaires aux gouvernements provinciaux pour qu'ils puissent un peu mettre en place vraiment des commissions pouvant quand même réparer ou bien voir d'autres matériaux qui sont encore en faillite. Par exemple, ici sur la ville de Kananga, nous avons la SNEL, Société Nationale d'Électricité, qui est là, mais son moteur ne fonctionne pas bien. Alors le gouvernement national devra donner un peu de moyens pour que le gouvernement provincial d'ici, du Kassai Central, puisse un peu faire l'entretien de ces engins-là pour un peu donner de l'électricité à la population. Parce que ça fait longtemps que la population a tant souffert, messieurs, je dis. Vous vous rappelez bien, nous sommes dans un pays où on nous
dit Nestor, que... là-bas à Kananga, vous voulez dire que vous n'avez pas il n'y a pas de courant à Kananga?
Il y a toujours le délestage. Tantôt c'est 2 heures par jour, 3 heures par jour le délestage, donc des coupures intempestives du courant. Donc la population s'inquiète beaucoup.
D'accord.
Vous savez aussi, avec le projet suite Katende,
oui.
C'est depuis longtemps qu'on nous a promis que ce projet doit être mis en place pour que la population puisse être desservie en électricité. Mais il y a eu succession de gouvernements, et jusque-là, la population n'a pas profité de ces projets-là. C'est encore un appel que nous devons lancer au gouvernement pour qu'il puisse bien faire à ce que ces projets-là puissent être appliqués et que la population puisse être desservie en électricité.
Merci Nestor. Guy, vous êtes à Kananga aussi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation par rapport au courant électrique?
Bon, nous, notre proposition pour les courants électriques, parce que si on s'occupe seulement des centres-villes, bon, Kinshasa, Lubumbashi et les autres, Kananga, c'est juste un sous-développement. Il faut qu'on nous envoie dans chaque territoire, que le gouvernement national puisse donner les moyens dans chaque territoire, qu'on puisse faire les barrages locaux, ça va servir la population. Les courants, ce n'est pas seulement ceux qui sont en ville, ils doivent avoir les courants, même ceux qui sont dans les territoires, dans les villages moins encore développés, ils doivent avoir le droit au courant, même droit et le courant, c'est panneaux solaires, tout ça. Mais on parle seulement des villes chutes, les chutes, par exemple, de Katende de Kananga, qui a fait des siècles, ça n'a jamais terminé. C'est pour nous demander au gouvernement et l'équipe actuelle de voir aussi les territoires. Dans notre pays, les territoires sont privés du courant. Les gens vivent dans des situations très, très difficiles.
Merci, Guy, depuis Kananga. Monsieur Emmanuel Moussouyou, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Ben, nos deux amis ont raison de réclamer le fait que dans leur province, il n'y a pas accès à l'électricité. C'est là qu'il y a le barrage de Katende. le barrage de Katembe qui devait, n'est-ce pas, être opérationnel, mais malheureusement, encore une fois de plus, cette problématique de la gouvernance où on ne planifie pas comme il le faut. Mais qu'est-ce que moi je peux dire exactement par rapport à ce que nos deux amis ont dit? Je note que aujourd'hui il y a un sérieux problème parce que premièrement, il y a la loi sur l'électricité a prévu l'Agence nationale pour l'électrification en milieu rural. Le rôle de cette agence, c'est justement de venir promouvoir des initiatives de production en électricité pour améliorer la qualité au fait et le taux d'accès. Mais malheureusement, elle a été créée par, n'est-ce pas, l'ordonnance, par l'arrêté du Premier ministre, mais malheureusement, les animateurs, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été désignés ou choisis. Le président de la République, lors du forum de Matad, y avait promis, n'est-ce pas, de soutenir cela ou de concrétiser cette démarche, mais cela n'a jamais trouvé d'écho. Donc, pour dire que actuellement, il n'y a pas encore d'efforts de manière bien coordonnée qui sont fournis pour résoudre ce problème dans les provinces.
Oui.
Raison pour laquelle nous disons que, d'ailleurs, le président de la République, dans son allocution lors de la conférence panafricaine sur l'hydroélectricité Inga 3, il a dit que la République démocratique du Congo a un potentiel de plus ou moins 110 gigawatts. Et sur le 110 gigawatts, il y a plus ou moins 60 gigawatts qui sont répartis sur l'ensemble du pays. Et c'est l'exploitation de ces 60 gigawatts sur l'ensemble du pays qui fera en sorte que la population puisse avoir accès à l'énergie. Et d'ailleurs, nous disons que c'est la meilleure des options à prendre parce que cela va booster le développement à partir du milieu rural pour que cela atteigne le niveau national et voire même avec cette productivité bien coordonnée, ça pourra nous permettre de relier ou de connecter aussi le monde extérieur parce qu'ils ont besoin d'énergie que nous devons produire. Et donc, le problème se trouve à ces niveaux-là. Malheureusement, depuis un certain moment, depuis le gouvernement qui venait de partir, en fait, le président Kabila, l'actuel président, nous avons constaté une chose et nous la décrions, c'est que beaucoup d'efforts sont fournis pour développer des grands projets dans le secteur énergétique. Le cas du projet Inga 3, par exemple.
Oui.
On met beaucoup d'efforts pour développer ces projets, alors que c'est un projet, selon nous, estimons qu'il n'est pas opportun aujourd'hui pour le pays parce que si seulement les mêmes efforts sont fournis pour les autres projets, pour les autres sites identifiés sur l'ensemble du pays, la question de l'accès à l'énergie sera résolue, voire pour les communautés, comme aussi pour les miniers, justement les industriels qui en ont besoin. Malheureusement, avec Inga 3, on va attendre plusieurs années,
oui.
On a besoin de beaucoup de milliards de dollars.
Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous proposez entre-temps? Quels sont les projets qui peuvent être menés entre-temps pour fournir l'électricité à la population?
Non, mais il y a beaucoup de projets. L'Atlas sur les énergies renouvelables, publié par le PNUD à l'époque, a identifié plus de 800 sites sur l'ensemble du pays.
Monsieur Emmanuel, vous êtes devant un ordinateur, on entend les bruits, les cliquements des ordinateurs ou téléphones.
Voilà, c'est résolu. Donc j'étais en train de dire que l'Atlas sur les énergies renouvelables a identifié plus de 800 sites sur l'ensemble du pays. Plus de 800 sites où on peut développer des projets, des micro-barrages, des barrages à taille moyenne. On était en train de faire cette petite exercice. Zongo 2 va produire carrément 150 mégawatts, mais avec 350 millions de dollars, on a eu à construire ce barrage. Et donc, c'est pas de l'argent qui peut coûter toute une vie à la République démocratique du Congo. Question juste de bien coordonner ces projets et donc on peut résoudre le problème d'accès à l'énergie à travers des micro-barrages et des barrages à taille moyenne à travers le pays. Voilà donc la réponse à votre question.
Voilà donc mais comme la SNEL a été le secteur a été libéralisé, cela veut dire qu'il y a des privés aujourd'hui qui peuvent aussi créer des structures pour travailler soit dans les domaines du transport ou dans les domaines de la distribution de l'énergie électrique au lieu de laisser tout cela à la SNEL.
Effectivement, aujourd'hui, normalement, on ne devrait plus parler du monopole de la SNEL parce que le secteur est libéralisé. Et nous saluons vivement des initiatives de privés qui, n'est-ce pas, sont en train de davantage venir investir dans le pays. Et je peux citer le cas du projet à Kinshasa qui devra produire plus ou moins 900 mégawatts, le projet de monsieur Eric Munga dans le Katanga, le projet Virunga SARL qui n'est pas en train de construire plusieurs barrages en cascade dans le Nord Kivu. Ce sont des initiatives comme ça que nous saluons et nous invitons davantage les investisseurs à venir appuyer le secteur. Mais le grand problème à ces jours, c'est que la loi existe, mais les mesures d'application ne sont pas effectives. Déjà, par exemple, il y avait une mesure qui devait être développée pour la fiscalité dans le secteur. La fiscalité afin de rendre attrayant, au fait, les investissements dans ce secteur-là. Mais malheureusement, cette mesure d'application n'existe pas encore. Alors que 2014-2020, c'est plus ou moins 6 ans durant que le secteur est libéralisé. Donc, il y a un problème qui doit être résolu par les politiques. Si cela est fait, ça pourra encore davantage booster des investissements dans le secteur. Mais sinon, nous, en tant que coalition d'ONG qui fait le monitoring dans le secteur, nous invitons vivement ces privés à venir investir, comme nous-mêmes aussi, nous allons nous employer très prochainement à trouver des projets communautaires qui vont résoudre un certain nombre de problèmes dans nos communautés parce que on a besoin effectivement de l'énergie.
Bien, Emmanuel Moussouyou, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de CORAP, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et actions publiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Service.
Okapi, Radio Okapi.
Le conseil du jour.
Bien, trucs et astuces pour bien conserver les fruits et légumes. Les fruits et les légumes frais sont les plus fragiles et ont tendance à moisir facilement. Thérèse Cancou nous donne quelques astuces pour conserver les aliments les plus longtemps. Thérèse Cancou.
Les citrons frais ne se conservent pas éternellement. Au bout d'un moment, ils flétrissent et pourrissent même quand on les conserve dans les frigos. Heureusement, il existe un truc pour les conserver frais et juteux plus longtemps. Prenez un bocal en verre avec couvercle. Placez les citrons non coupés dedans, remplissez les bocaux d'eau fraîche du robinet, refermez le bocal et placez-le dans les frigos. Vous allez pouvoir garder vos citrons frais et juteux pendant des semaines entières. Et pourquoi cette astuce marche? Car la peau du citron se referme au contact de l'eau. Résultat, cela empêche la peau du citron de se dessécher. En ce qui concerne la tomate, nombreux sont ceux qui la conservent au frigo, chose qu'il ne faut pas faire justement. Le froid fait perdre aux tomates tout leur goût, quelle que soit la saison. Placez plutôt vos tomates dans un panier ou dans un saladier afin d'éviter qu'elles ne s'abîment en quelques jours. Évitez de les placer près de votre fenêtre. Les changements des températures les feraient ramollir et pourrir. Elles éviteront en plus les soleils qui le feraient mûrir trop vite. Autre astuce, ne lavez vos tomates qu'au moment de les manger afin que là encore elles conservent tout leur goût.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève l'émission Okapi Service qui a porté sur l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Polydor Bansunga était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute des programmes sur la fréquence de la paix. À bientôt.
Daniel, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.